L'impression en trois dimensions est indiscutablement l'une des révolutions techniques de ces dernières années, permettant à tout un chacun de construire, d'assembler, de réparer des objets comme bon lui semble. Appliquer maintenant cette technique au corps humain, voici venir l'ère de la bio-impression, ou comment construire, assembler, réparer des tissus ou des organes à partir d'une imprimante. Une technologie qui promet de complètement bouleverser la méthodologie chirurgicale autant que l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Bio-impression, sommes-nous à l'aube de l'avènement de l'humain en pièces détachées ? C'est l'énoncé du problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce nouveau continent, allez encore un cette semaine, de l'ingénierie biomédicale, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi ici en studio à Paris Jean-Charles Duclos-Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'hépatologie à l'université Paris-Sud, vice-président de CellSpace, qui est une association consacrée à la construction d'organes par bio-ingénierie, et coordinateur du département hospitalo-universitaire Hépatineuf. Et nous sommes également en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Jean-Christophe Friquin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité de recherche en bio-ingénierie tissulaire à l'INSERM. Nous sommes évidemment, comme chaque jour pour nos auditeurs, en direct sur Twitter. Vous pouvez suivre le compte @laméthodefc. Alors, je vais vous poser finalement cette question, alors qui est une formule, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Sommes-nous devant ce nouveau continent de la bio-ingénierie médicale face à l'aube de l'avènement d'un être humain qui serait un être humain qu'on pourrait reconstruire en pièces détachées, selon vous, Jean-Charles Duclos-Vallée?
Écoutez, oui, je crois que c'est un continent on a déjà qui est déjà bien avancé, bien construit. Même les premiers travaux de bioconstruction datent maintenant de près de 15-20 ans, avec des choses qui avancent à une vitesse supersonique. On va voir pourquoi. Et comment ? Parce qu'il y a un développement majeur de ces différentes technologies, de cette technologie de bio-impression qui allie aussi une expertise dans différents domaines où les choses vont aussi très vite, qui allie la physique, la biologie cellulaire, et puis bientôt, je dirais, les cliniciens. Et on voit bien que tout ce parallèle qui va extrêmement vite en termes d'expertise tout se met un petit peu ensemble et les gens communiquent et les gens commencent à travailler de plus en plus ensemble, de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Donc de fait les avancées vont très vite. Et on a déjà pas mal passé de guet.
On va voir justement ça. Jean-Christophe Friquin, bien sûr, oui.
Oui, je voudrais bien rajouter quelques mots. Donc je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit par mon collègue. Par contre, je crois qu'il ne faut pas non plus donner des espoirs à trop court terme aux patients, dans la mesure où on reçoit quand même assez souvent des malades qui nous écrivent des mails apeurés en ayant un grand espoir à court terme pour régler tous ces problèmes liés aux déficiences d'organes ou à la perte de certaines fonctions. Et on n'est pas autant en termes de prothèses, c'est-à-dire de matériaux avec peu de fonctionnalités. L'impression 3D a pénétré la clinique. Pour ce qui concerne la bio-impression, on est encore à une échéance qui est quand même plus lointaine, en tout cas en termes d'ingénierie tissulaire.
Alors justement, on va examiner là dans cette première partie d'émission l'état d'avancée de ces recherches en bio-impression et en impression 3D. Les techniques sont assez nouvelles, sont assez novatrices, vous le mentionniez Jean-Charles Duclos-Vallée, depuis 10-15 ans et ça s'accélère beaucoup depuis ces dernières années. Mais l'idée de la bio-impression, elle, ne date pas d'hier, c'est une idée qui remonte à longtemps dans l'histoire de la médecine.
Oui, la technologie de bioimpression, déjà 2D, est vraiment ancienne.
2D donc en deux dimensions.
En deux dimensions. Il faut bien comprendre que la deuxième dimension, c'est évidemment l'approche préalable, qui est déjà ancienne, qui date de 20 à 25 ans. Il y a donc déjà des modèles de construction de peau, et je pense que Jean-Christophe Riquin va en parler. Et ça a été évidemment le support, et de fait, le support ensuite à d'impression 3D. Et on parle même maintenant, on commence à parler de quatrième dimension quand on fait allusion à la fonctionnalité, etc., du tissu, à sa maturité, etc. Mais là encore, je pense qu'on reviendra sur le sujet.
Jean-Christophe Riquin, c'est vous confirmez ce que vient de dire Jean-Charles Duclos-Vallée?
Oui, oui, complètement. Je pense que les premières impressions de matériaux biologiques concernaient des protéines de la matrice extracellulaire, la fibronectine, et que ces micro-impressions datent des années 90.
Alors justement, dans les années 90, on assiste au premier succès donc d'impression, de bio-impression en deux dimensions. La bio-impression la plus simple, les premiers tissus que l'on a utilisés, ce sont des tissus de peau. Je vous propose d'écouter notre archive du jour, comme toujours extraite de l'inépuisable catalogue du CNRS Images. Elle date de 1996. C'est un extrait du film Changer de peau. Vous allez y entendre le docteur Henri Carcin, qui est chef du service du centre de traitement des grands brûlés à l'hôpital militaire de Percy. C'était donc en 96, il y a 20 ans tout juste.
Et là, je crois qu'on est au début d'un grand espoir, finalement, mais on n'est qu'au début. Et c'est la première fois qu'on fait quand même, je veux dire, un organe au laboratoire. Donc c'est un espoir absolument extraordinaire. Mais on n'est qu'au début, je crois qu'il faut en être tout à fait conscient. Et donc, vers où évoluera-t-on? Est-ce qu'on évoluera vers des cultures d'épiderme d'un côté, un derme artificiel de l'autre? Est-ce qu'on évoluera vers une peau totale reconstituée au laboratoire avec un derme plus un épiderme et donc une bien meilleure fonction dermo-épidermique? À quel prix, etc. Donc tout ça, c'est quand même l'enjeu des années futures. Et je pense que si on se retrouve dans 5 ans, on n'aura pas du tout la même conversation qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on commence à fabriquer une peau artificielle, pour réparer, pour sauver. Demain, on fera une peau parfaite, sensible, aux utilisations variées et accessible à tous, dès qu'il y aura blessure ou simple cicatrice. De nouvelles histoires de cellules pour pouvoir changer de peau.
Voilà l'extrait de ce film du CNRS Images. Alors demain, on y est déjà, cette peau sensible, variée, comme on l'entend dans le documentaire Jean-Charles Duclos-Vallée.
Écoutez, oui, les résultats, en particulier par l'équipe de Bordeaux, montrent bien qu'on arrive à la production de tissus cutanés déjà bien différenciés, avec des temps de viabilité satisfaisants. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Christophe Riquin, qui connaît bien le sujet sur le plan cutané. Mais bien sûr, il y a des limitations de taille, de volume, et puis de maturation à plus long terme, etc. Mais c'est dans ce domaine une avancée considérable.
Jean-Christophe Riquin, depuis 1996, depuis cette archive en 20 ans, donc 20 ans sont passés, quels sont les progrès qui sont effectués? Où en êtes-vous dans votre unité de recherche?
Alors, tout d'abord, notre unité de recherche travaille plus sur l'ingénierie tissulaire de l'os et les vaisseaux. Et toute la partie cutanée, en fait, est développée par la société Poietis, qui est une start-up issue du laboratoire.
On y vient dans un instant.
Fabien Guillemot est le directeur. Je peux quand même dire quelques mots sur la peau, à savoir qu'il y a déjà de nombreux modèles qui sont disponibles et qui sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique ou au moins des cosmétiques. Que ces modèles de peau posent aujourd'hui des problèmes peut-être de reproductibilité, en tout cas de spécificité, de surmesure. Et l'impression 3D a toute sa place dans ce cadre-là. Et notamment pour complexifier aussi la peau, pour ajouter des éléments qui actuellement font peu partie des modèles disponibles. Et notamment tout ce qui est follicule pileux, qui est actuellement un objet de développement par Poietis en collaboration avec la société L'Oréal.
Oui, ça c'est une information qui vient de tomber. On va entendre, puisqu'on a envoyé notre reporter justement examiner les travaux de cette société Poietis dans un instant. Je voudrais tout de même, avant qu'on y aille, voir avec vous, parce que on parle de deux choses, on parle de bioimpression en 2D, en 3D. Aujourd'hui, quelles sont les techniques? Il n'y a pas une bioimpression, il y a différentes techniques de bioimpression. Où en est-on exactement aujourd'hui? Comment est-ce que ça marche concrètement, cette bioimpression? Jean-Christophe Riquin.
Alors globalement, on a trois technologies pour réaliser la bioimpression. On a des imprimantes qui fonctionnent sur un principe de jet d'encre, un petit peu comme des imprimantes de bureau. D'ailleurs, les premières bio-imprimantes étaient des imprimantes de bureau transformées. Le deuxième principe repose sur des systèmes de micro-extrusion, donc un piston au final qui va pousser un polymère et tout ceci piloté par un ordinateur. Et enfin, le troisième type d'imprimante qui est une imprimante dont le principe physique est basé sur la bioimpression assistée par laser, c'est-à-dire qu'un laser va fournir de l'énergie qui va permettre le transfert de molécules biologiques ou de cellules sur un receveur qu'on appelle un biopaper dans notre jargon.
Et c'est, il faut le souligner, tout de même une technologie développée par l'Inserm de Bordeaux.
Oui, tout à fait.
Cette technologie assistée par laser.
Oui, tout à fait. La bioimpression assistée par laser a été développée dans notre unité maintenant depuis une dizaine d'années. Donc nous avons mis au point deux prototypes et une société a été créée. Elle cherche donc à faire maturer cette technologie, à améliorer la technologie de bioimpression assistée par laser. Il faut souligner que cette technologie présente deux intérêts majeurs, la résolution et la densité de cellules que l'on peut imprimer, et ce qui différencie un peu la bioimpression assistée par laser des autres technologies. Après, quand on parle de bioimpression, il faut comprendre que on va pas tout résoudre certainement avec une seule technique et que les différentes techniques sont complémentaires malgré tout.
Alors justement, Jean-Charles Duclos-Vallée, ces trois techniques, elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. On regarde par exemple certaines techniques, la technique de la micro-extrusion dont parlait Jean-Christophe Fricat à l'instant, qui est une technique qui a d'emblée des vocations plus industrielles, c'est ça?
Oui, je trouve que effectivement, faut surtout pas au jour d'aujourd'hui privilégier telle technique, et que en fonction des objectifs, on va à moyen long terme peut-être effectivement privilégier certaines technologies, enfin certains types de bioimpression. Et peut-être que pour un certain type de tissu, il y en aura une qui sera effectivement meilleure que l'autre, ou une partie d'un même tissu, d'un même organe, peut-être une meilleure que d'autres, etc. Donc, faut être extrêmement prudent. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça doit être, et c'est déjà des mouvements de recherche, des études comparatives pour un même objectif, tissu, une partie de tissu, ou certains types tissulaires, ou certains types de matrices, de savoir effectivement quel est le type de techno la plus adaptée.
Est-ce que, avant de passer, on va passer au reportage dans un instant, j'aimerais tout de même que vous nous expliquiez l'un et l'autre, peut-être vous pour commencer, Jean-Christophe Fricain, les étapes de la bioimpression, d'où on part, quelles cellules on imprime, il y a trois étapes, en gros, est-ce que vous pourriez nous les résumer?
Oui, tout à fait. La première étape, c'est une étape de planification et de conception du motif à imprimer. Donc cette conception va passer par une phase de réflexion en fonction de ce que l'on souhaite imprimer. Ensuite, il va falloir traduire ça par informatique, donc sur le pilote d'ordinateur. Ensuite, il y a la phase d'impression à proprement parler, donc en fonction des trois techniques qu'on a vues précédemment. Et ensuite, il y a les phases de caractérisation, bien évidemment, de ce que l'on vient d'imprimer. Donc là, il faut comprendre qu'on est actuellement au début, malgré tout, de la bioimpression et que les choses ne sont pas du tout uniformisées. On se heurte en termes de caractérisation à de nouvelles problématiques liées à la résolution des tissus imprimés. Donc il y a tout un champ d'investigation et de recherche en fait sur les trois phases qui concernent la bioimpression, donc à la fois la phase de conception, la phase d'impression et la phase de caractérisation.
Oui, allez-y.
Après, en termes de tissus imprimés, on peut imprimer essentiellement de la matrice extracellulaire et des cellules. La question après, c'est la question de l'organisation de ces impressions, de la matrice extracellulaire, des cellules, jusqu'à quel niveau d'organisation il faut aller. On parlait tout à l'heure du 4D, en fait, c'est cette dimension temporelle qui va faire évoluer le tissu.
La quatrième dimension,
C'est actuellement un des enjeux de la bioimpression, en fait, de savoir jusqu'où imprimer et jusqu'où va se faire l'organisation après l'impression.
Jean-Charles Duclos-Vallée.
Oui, c'est tout à fait. Et un des objectifs majeurs, ça va être la poursuite de la maturation dans sa fonctionnalité, dans son organisation. Donc, c'est évidemment pas qu'une architecture anatomique, mais c'est bien sûr une fonction très rapide, avoir la fonction la plus efficace, la plus évoluée possible, et le maintien de cette fonction à moyen long terme. Et ça, c'est un enjeu vraiment essentiel et qui va être un objectif majeur là, de ces prochaines années.
J'aimerais que vous nous disiez aussi tout de même un mot, puisque ces cellules, les cellules qu'on va bio-imprimer, vous les extrayez d'où et comment vous les organisez? J'aimerais que vous me disiez quand même un mot, qu'on comprenne un mot de ce que sont les échafaudages dans la bio-impression ou dans l'impression 3D, Jean-Christophe Friquin.
Oui, alors je vais par exemple prendre l'exemple de la bio-impression de capillaires. Donc dans l'unité, nous cherchons à imprimer des lignes de capillaires sur des feuillets. Donc on utilise sur la base de feuillets des cellules souches mésenchymateuses, qui sont des cellules souches multipotentes issues de la papille apicale dentaire. Et dessus ces cellules, ces tapis cellulaires, on va imprimer des lignes de cellules endothéliales qui sont issues du cordon ombilical ou du sang de cordon. Et donc ce que l'on cherche à faire en effet, c'est faire des lignes de cellules qui vont s'organiser entre elles pour prendre une forme tubulaire qui ressemble au capillaire. Et ce que l'on souhaite, c'est conserver ce motif le plus longtemps possible. Alors, il est vrai qu'il y a encore 2-3 ans, on arrivait à conserver le motif sur une semaine maximum. Et aujourd'hui, on peut le conserver sur plusieurs semaines. Donc c'est aussi ça les enjeux de la bioimpression, c'est d'avoir des motifs que l'on peut conserver dans le temps pour nos applications, que ce soit en termes de modèles pharmacologiques ou en ingénierie tissulaire.
Alors, aller justement dans cette start-up que vous évoquiez tout à l'heure, avec laquelle vous avez collaboré, Jean-Christophe Friquin, puisque nous avons envoyé Antoine Beauchamp, donc à Pessac, c'est près de Bordeaux. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors vous qui comptiez revenir avec un foie neuf, vous en êtes pour vos frais pour le moment, mais vous êtes incollable sur la bio-impression de peau.
Grâce à Fabien Guillemot, qui est le directeur de cette start-up Poietis, qui, au passage, petit cours de lettres classiques, tire son nom du verbe grec qui signifie fabriquer, faire. Bon bref, cette start-up Poietis est basée à quelques kilomètres de Bordeaux, à Pessac, vous le disiez. Elle a été créée en 2014 et elle a mis au point des bio-imprimantes laser uniques au monde qui permettent d'imprimer de la peau. Tout fonctionne avec une encre composée de cellules de peau humaine et une bio-imprimante laser qui permet d'empiler couche par couche des cellules de peau qui ensuite se développent comme des grandes dans un incubateur. Vous allez l'entendre, Fabien Guillemot m'a expliqué les différentes étapes d'une bio-impression de peau et les applications concrètes que peut avoir cette méthode révolutionnaire.
S'habiller pour entrer dans la salle blanche. On devra mettre des surchaussures. D'accord. Pour se protéger un peu.
C'est bon, on va parer.
C'est mieux de mettre des lunettes. Non, mais on va les prendre. Donc en plus.
Voilà, on est au cœur du laboratoire. Combien d'étapes ça prend pour créer de la peau à partir de cellules voilà.
Le process entier de fabrication d'une peau par bio-impression est une succession d'étapes. La première d'entre elles étant la préparation des cellules notamment. Pour cela, on utilise des échantillons de peau qui nous proviennent de centres hospitaliers, de cliniques. Donc de ces tissus, en fait, on arrive à extraire des cellules qu'on va multiplier pour en avoir un nombre suffisant pour réaliser la fabrication de nos échantillons. La deuxième étape consiste à la phase de conception. C'est un peu la phase virtuelle, c'est-à-dire qu'on va concevoir le fichier 3D qui va aboutir à un tissu vivant. Et cette phase de conception est assez rapide et elle consiste à décrire l'organisation tridimensionnelle des différents constituants du tissu, que sont les cellules, mais aussi ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire les matériaux qui entourent les cellules dans notre organisme et aussi dans les fabrications que l'on réalise in vitro. Donc on travaille énormément là-dessus et après donc il y a la phase d'impression à proprement parler qui elle est assez rapide, qui prend en fonction de la complexité des tissus que l'on imprime, prend on va dire de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Je dirais que ça c'est l'étape un peu l'étape de lancement. Après ce qui va s'opérer c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation en fait des cellules, c'est-à-dire que les cellules, une fois imprimées, vont communiquer entre elles, vont interagir avec leur environnement, et de ces interactions va émerger des fonctions biologiques que l'on recherche, et toutes ces interactions ont lieu sur une plage temporelle qui est relativement longue, puisqu'elle peut s'étendre jusqu'à 2 ou 3 semaines. Donc ça veut dire que pendant 2 ou 3 semaines, après l'impression, les échantillons sont placés dans des incubateurs, dans des environnements dédiés où la température, les milieux sont parfaitement contrôlés. Et donc seulement après 3 semaines de maturation, on a notre objet final en fait.
Alors là on est devant la bio-imprimante, est-ce que vous pourriez me la décrire? C'est C'est assez impressionnant comme objet.
Toute la bioimprimante est positionnée à l'intérieur d'une hotte de culture cellulaire, ce qu'on appelle un poste de sécurité microbiologique. Ce sont des imprimantes assez uniques parce qu'on utilise la technologie laser. Donc on utilise des lasers qui émettent des impulsions assez courtes, hein, de quelques dizaines de nanosecondes. Et ces impulsions vont être focalisées sur une cartouche. Et là, en fait, on peut voir la cartouche comme une lame de verre, une lame de microscope, sur laquelle on a étalé au préalable des cellules sous forme d'une suspension. Donc les cellules ont été mélangées avec du milieu de culture. En focalisant le laser à l'interface entre la lame de verre et cette encre de cellules, en fait on crée une petite cavité à l'intérieur du liquide qui va induire la projection du liquide sous forme d'un jet, donc ce fameux jet d'encre, et en positionnant un substrat, face à ce jet, on peut ainsi collecter des toutes petites gouttes de liquide et des toutes petites gouttes de cellules. Et avec, c'est tout l'intérêt de la technologie laser, on peut balayer excessivement rapidement la surface de la cartouche avec des miroirs qui sont pilotés par ordinateur. Et ainsi, on peut créer des organisations de cellules. Ce qu'on espère, c'est générer les organisations les plus propices à la formation d'un tissu fonctionnel. C'est comme faire de la peinture. On peut faire de la peinture au rouleau avec une résolution assez grossière et faire de la peinture au pinceau. Dans les deux cas, on fait de la peinture, mais la valeur de l'objet produit n'est pas tout à fait le même. Et on pense qu'avec cette technologie qui a vraiment une résolution extrêmement élevée, la valeur des tissus produits sera bien supérieure et on va pouvoir reproduire ainsi toute la complexité des tissus. Et c'est tout l'enjeu de l'ingénierie tissulaire aujourd'hui.
C'est une question qui peut paraître un peu naïve, mais voilà, la peau que vous fabriquez ici, est-ce que si demain je me brûle, je peux vous confier mes cellules et vous me recréer un bout de peau que j'appliquerai sur ma brûlure ?
Alors aujourd'hui, en fait, nos développements ne concernent pas directement les applications cliniques, au sens où voilà, on est plutôt sur des applications de type recherche industrielle. Par contre, en fait, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est même l'essence même de Poietis. Et notre objectif est de prochainement commencer à adresser ces applications cliniques. Et je dirais que sans doute que les premières applications chez l'homme de la bioimpression devraient être observées, on va dire, à un horizon de 5 à 7 ans maintenant, au moins pour les premiers essais cliniques. Il y a 2 ans, on se disait que c'était sans doute un horizon proche des 10 ans. Et on voit que les développements technologiques s'accélèrent et les choses avancent bien aussi. Alors les premières applications de la bioimpression de peau sont dans le domaine de la recherche académique bien entendu, mais aussi recherche industrielle dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine cosmétique. On a d'ores et déjà des partenariats avec des grands industriels dans le domaine de la cosmétique, par exemple BASF ou L'Oréal. L'idée est de développer des tissus qui vont reproduire des caractéristiques qui intéressent en fait ces industriels pour pouvoir évaluer notamment des ingrédients qu'ils intégreront dans leurs produits cosmétiques.
Vous avez mis au point une technologie potentiellement révolutionnaire pour le futur de la santé. Est-ce que vous êtes fixé des limites éthiques ?
Oui, dans nos statuts et dans l'objet social de Poietis, en fait, on s'est fixé comme objectif et comme objet d'aider à la réparation des tissus. Donc on s'inscrit vraiment dans une stratégie médicale d'amélioration de la qualité des soins et pas du tout dans l'augmentation des performances des tissus qui sont pour nous, en fait, un tout autre objet, même si objectivement les technologies qui sont développées pourront peut-être servir à différentes fins, tout en sachant que bon voilà, aujourd'hui on est encore assez loin des applications chez l'homme et donc de cette capacité que certains pourraient revendiquer à améliorer les tissus ou les performances des tissus grâce aux technologies de bioimpression.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp dans la société Poietis. Ce reportage qui a l'avantage de poser à peu près tous les enjeux de ce qui va être notre conversation jusqu'à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on examine avec vous deux, hein, Jean-Charles Duclos-Vallée et Jean-Christophe Riquin, d'abord où on en est. On parle là d'impression de peau. On a entendu l'impression de peau donc en 2 dimensions, bioimpression in vitro. Ce qu'il y a de plus saisissant, c'est que aujourd'hui on sait aussi produire de la peau in vivo, Jean-Christophe Friquin.
Oui, tout à fait. Ces technologies permettent en effet d'imprimer des cellules in situ, hein, directement sur le patient, en tout cas sur des modèles animaux. Ceci a déjà été réalisé pour la peau. Et pour notre part, nous l'avons fait pour le tissu osseux. Nous avons imprimé des cellules qui sont capables de former de l'os, des ostéoblastes, dans des défauts de calvaria chez des souris. Et ils ont pu démontrer qu'en fonction du motif imprimé, on allait avoir une cicatrisation qui était différente. Et ça, c'était aussi un des enjeux importants, c'était de montrer que, au final, on fait pas des motifs pour des motifs, mais que ça a une vraie implication clinique. Alors on le soupçonnait par rapport à la biologie du développement, où on sait très bien que ce sont des agrégats de cellules qui s'orientent par rapport à des concentrations en facteurs de croissance qui vont orienter la croissance des tissus et la formation des organes. Mais là, on a pu le démontrer dans un modèle de réparation tissulaire.
Jean-Charles Duclos-Vallée, il faut préciser aussi tout de même les avantages immenses que peut avoir de la bioimpression par rapport à une greffe classique.
Bien sûr, la bioimpression peut permettre de pallier à des situations cliniques très difficiles et très variées, telles qu'effectivement dans le contexte de la transplantation, commencer à aborder ce sujet où il y a de fait un manque de donneurs, quel que soit le type de transplantation. Des chirurgies aussi volontiers de plus en plus invasives pour des cancers, etc., où on fait des chirurgies importantes, où on peut éventuellement avoir besoin de pallier, de fabriquer une partie d'un tissu manquant pour pallier une étape difficile. Et c'est vrai, en particulier dans certaines situations de maladies hépatiques et avec des chirurgies pour cancer du foie, métastases, etc. Donc c'est vraiment important. Je voudrais rajouter quelque chose en bioimpression, effectivement, pour aller vers le tissu complexe, si vous permettez. Pour le foie, les choses ont déjà un peu démarré. Alors, on est en des volumes quasiment microscopiques, mais il y a déjà de l'impression 3D pour des toutes petites parties de tissu qui sont actuellement possible, et en particulier pour des approches toxicologiques, pharmacologiques. Et c'est un autre aspect clinique quand même extrêmement important, parce que comme vous le savez, avant de délivrer un médicament à un patient, avant des essais cliniques de phase 1, il y a tout le processus de préclinique, en particulier d'essais chez modèles animaux, qui sont volontiers complexes, lourds, etc., et éventuellement avec une sensibilité moindre. Et on commence à s'apercevoir que lorsqu'on teste certaines molécules, eh bien, on s'aperçoit déjà qu'elles sont toxiques sur des parties de tissu hépatique, alors que chez l'animal n'était pas. Donc vous voyez l'intérêt clinique que ça peut avoir dans ces approches toxicologiques.
Évidemment, on va examiner tout à l'heure, hein, bien sûr, toutes les applications possibles, et le champ, on va voir, est extrêmement vaste, du champ des essais précliniques jusqu'à la chirurgie, la cosmétique, la pharmacologie. On va voir que là aussi, tout ce continent de la bioimpression permet vraiment des avancées très très prometteuses à moyen et à long terme. J'aimerais qu'on continue à examiner un peu où l'on en est en fonction de la complexité des tissus et des organes que l'on peut imprimer. Je vais me retourner du coup vers Jean-Christophe Friquin, puisque après avoir parlé de la peau, vous avez travaillé, notamment, vous en parliez à l'instant, sur le tissu osseux. C'est un tissu un peu plus compliqué, mais avec lequel on a déjà aussi là des résultats très très significatifs en bioimpression.
Oui, alors nous sommes une unité de recherche, donc on a deux versants. On a un versant qui concerne la recherche plus fondamentale, et la bioimpression nous sert à imprimer différents types cellulaires côte à côte pour voir les interactions précises que peuvent avoir ces cellules entre elles. Et puis on a aussi un versant plus translationnel. Et dans le cas du tissu osseux, la bioimpression tient une place majeure. Alors bien sûr, d'abord, on a l'impression 3D avec laquelle on peut fabriquer sur mesure des substituts osseux à partir de l'imagerie du patient, qui est bien sûr pour nous le plus souvent encore dans un modèle préclinique. Bien que différentes implantations aient été réalisées dans le domaine de la chirurgie maxillofaciale. Après, en termes de chirurgie osseuse, l'impression 3D présente un intérêt didactique aussi. C'est on peut réaliser des modèles personnalisés de l'intervention que l'on va réaliser, et ça permet au chirurgien donc de simuler son intervention. Donc c'est pas tout à fait l'impression 3D, mais on reste dans le domaine médical, en tout cas pas de la bioimpression, mais de l'impression 3D dans le domaine médical. Et enfin, pour ce qui concerne le tissu osseux, il y a des équipes, notamment au Wake Forest Institute, qui ont réalisé des portions de mandibules entières de quelques centimètres cubes qu'ils ont pu réimplanter, là encore, dans des modèles animaux. Donc, en termes d'ingénierie tissulaire osseuse, l'impression 3D est à un niveau relativement mature.
J'ai lu par exemple que l'Université de Columbia, c'est peut-être à ça que vous faisiez référence, a réussi justement sur des dendras à reconstituer des maquettes avec des micro-canaux interconnectés, que 9 semaines après l'implantation, la dent avait créé son propre ligament parodontal et un nouvel os alvéolaire. Ça veut dire qu'on ne se substitue pas juste à l'os, c'est un os qui se réintègre complètement dans la physiologie de l'animal.
Tout à fait, c'est toute la recherche de la fonctionnalité en ingénierie tissulaire, hein, où on ne cherche pas simplement à avoir un aspect prothétique de remplacement, mais on cherche à redonner la fonction à ce qui aura été implanté.
Alors, il y a autre chose qu'il faut aborder, Jean-Charles Duclos-Vallée, c'est que dès qu'on parle de bio-ingénierie, vous l'aviez dit, Jean-Christophe Friquet en a parlé tout à l'heure, on parle très vite aussi de cellules multipotentes ou de cellules souches, parce que précisément, c'est en utilisant ces cellules qu'on va pouvoir faciliter la réimplantation dans l'organisme, la revascularisation éventuellement de certains tissus. C'est important ce travail-là sur ces cellules multipotentes.
Oui. Alors, tout à fait, vous parliez tout à l'heure de quel type cellulaire on devait utiliser. Et pour l'instant, en particulier en termes d'organes complexes, les choses restent à l'état de recherche. Et il y a évidemment deux types de cellules. Si je simplifie à l'extrême, des cellules différenciées, des cellules matures, qui sont pas forcément faciles à obtenir. Et puis des cellules indifférenciées ou des cellules souches. Alors, toute une des problématiques, ça va être effectivement comment va se différencier la cellule souche dans la construction, dans la bioimpression. Et c'est là que la problématique de la matrice, quel type de matrice extracellulaire, différents composants, avec le surajout, et Jean-Christophe Riquin soulignait, de facteurs de croissance, de facteurs de différenciation, vont aider à la différenciation. Et quel type de différenciation ? Puisque, de fait, une cellule souche a plusieurs potentialités, plusieurs voies de différenciation. Par exemple, pour le foie, elle peut se différencier en une cellule hépatique, un hépatocyte, une cellule biliaire, etc. etc. Donc, maîtriser la différenciation, c'est un point crucial. Et dans quelle voie de différenciation ? Tout ça pour aboutir dans ce complexe cellule-matrice, une fonctionnalité parfaite.
Et alors, on va avancer encore un peu plus loin dans la complexité des tissus et des organes. On peut parler notamment des tissus cardiaques. J'ai lu des choses assez incroyables sur les réparations de valves cardiaques, pareil, avec des impressions in situ qui fonctionnent, Jean-Charles Duclos-Vallée.
Oui, tout à fait. En termes de chirurgie, enfin en termes de pathologie cardiaque, il y a des avancées donc extraordinaire en termes de développement de patchs cardiaques sur des zones infarcies et puis des constructions de valves, en particulier pour des valvulopathies dans l'enfance, enfin chez le petit, etc., avec la construction de modèles de valves cardiaques fonctionnelles.
Là aussi, en partant de cellules souches mésenchymateuses dont Absolument. On parlait, sur des zones lésées du cœur chez le rat, et on voit que les tissus se revascularisent. Alors, qu'est-ce qui empêche, en fait, quelle est la limite aujourd'hui, et j'adresse cette question à vous deux, Jean-Christophe Riquin, Jean-Charles Duclos-Vallée, quelle est la limite à la complexité, en fait ? À quel moment on bute dans la bio-impression d'organes plus complexes, plus vascularisés, plus difficiles à mettre en place ? Jean-Charles Duclos-Vallée.
Je crois qu'il faut d'abord définir ce qu'est un organe complexe. Alors, un organe complexe, représentés par exemple par des organes tels que le foie et le rein, sont des organes qui ont plusieurs types cellulaires, qui ont une vascularisation éventuellement complexe et qui ont des voies d'excrétion, par exemple le système biliaire complexe. Et puis pour le rein, c'est un autre système, des fonctionnalités aussi très variées. Et je dirais que la complexité de l'organe vient aussi de l'embryologie, de la construction anatomique, fonctionnelle d'un organe. Et encore au jour d'aujourd'hui, on est dans certaines incertitudes comment est exactement une architecture microscopique du foie. La position de tel type cellulaire, etc., etc. Et aussi, quelles sont des zones qui éventuellement aident la régénération, etc. Donc c'est ça qui rend complexes les choses, c'est-à-dire rendre... aboutir un tissu bio-imprimé le plus proche possible du vrai organe. Et je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on va vers, puisqu'on va vers cette compréhension. Mais donc, voyez bien la notion de complexité de tissu du fait de cette complexité anatomique et fonctionnelle du tissu.
Jean-Christophe Riquin.
Oui, je pense que la majorité des tissus sont complexes. La peau est certainement l'un des tissus les plus simples parce qu'il n'est pas vascularisé, mais il reste quand même complexe puisqu'au final, tous les modèles qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas parfaits. Et c'est pour ça qu'on a fondé beaucoup d'espoir dans la bio-impression. Donc je crois qu'un des enjeux majeurs, quels que soient les tissus, c'est d'arriver à faire des éléments un peu transversaux qu'on retrouvera dans plusieurs types d'organes, notamment reproduire des vaisseaux à différentes échelles et connecter entre eux pour assurer donc la nutrition des cellules de ces organes. Après, un des problèmes en bio-impression, c'est la gravité, en fait, au final, parce que quand on imprime des tissus, ils vont avoir un petit peu tendance à s'affaisser. Donc là, il y a tout un travail sur les matrices extracellulaires que l'on va fabriquer, matrices extracellulaires qui pourront aussi jouer un rôle dans la différenciation des cellules. Donc en fait, vous voyez, tous ces systèmes sont reliés entre eux, ouais, tout à fait. Donc, moi, je trouve que le terme d'organe complexe, au final, il s'applique assez bien, malgré tout, à l'ensemble des tissus. Et certains sont plus complexes que d'autres, comme le foie et le rein.
Alors, pour ajouter un élément d'information, j'ai lu que des chercheurs conjoints de quelques universités vaguement réputées, hein, Sydney, Harvard, Stanford, le MIT, que tous ensemble ont créé un squelette de vaisseau par échafaudage de biomatériaux et qu'ils ont réussi à ajouter des cellules autour de ce squelette. Est-ce que ça veut dire que grâce à ce type d'architecture, on peut commencer à penser, à imaginer la bio-impression d'organes, non pas complexes, mais complets, Jean-Charles Duclos-Vallée?
Oui, vous faites allusion déjà à la construction d'un type de bloc, d'un élément essentiel. Et ce que aussi Jean-Christophe Riquin faisait allusion, ce qui est important, c'est de maîtriser finalement la construction de blocs majeurs qui participent à la fonctionnalité d'un tissu. Alors, vous avez les vaisseaux, vous avez d'autres systèmes, par exemple le système biliaire, le système d'excrétion pour le rein, etc. Et c'est cette approche-là qui est pour l'instant priorisée, c'est-à-dire la construction, la compréhension, aller vers des blocs comme ça, le plus différencié, et ensuite, dans un deuxième temps, travailler, réfléchir pour intégrer de façon adéquate ces différents blocs. Et juste, je voudrais revenir, je partage complètement l'opinion de Jean-Christophe Riquin sur la complexité d'un tissu. Évidemment, ils sont tous complexes, il y a tous un degré de complexité. La peau a un degré de complexité dans le maintien de la maturation, etc. Peut-être moins de complexité, entre guillemets, d'architecture et d'anatomique, mais... on a chaque organe a ses éléments de complexité, bien évidemment.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h38 sur France Culture. Vous pouvez toujours nous suivre en direct comme chaque jour sur Twitter, sur le compte @laméthodefc. Nous parlons depuis tout à l'heure de bio-impression et d'impression 3D avec Jean-Charles Duclos-Vallée, professeur d'hépatologie à l'Université Paris-Sud, vice-président de CellSpace, une association qui est consacrée donc à la construction d'organes par bio-ingénierie. Nous sommes en duplex depuis France Bleu Gironde à Bordeaux avec Jean-Christophe Friquin, directeur de l'unité de recherche en bio-ingénierie tissulaire à l'INSERM. On a parler en première partie des avancées techniques, de l'état de la recherche en matière de bio-impression. Et encore, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, puisqu'on est aussi capable de bio-imprimer une trachée. Enfin bon, on a vu qu'on était assez avancé, qu'il restait encore beaucoup d'étapes à franchir néanmoins pour réussir à imprimer totalement un organe entier. Mais j'aimerais qu'on examine dans la deuxième partie de cette émission les applications. On en a dit un mot tout à l'heure, les applications sont extraordinairement nombreuses, et il faut dire que c'est un marché très juteux, la bioimpression, l'impression 3D, qui intéresse autant l'industrie pharmaceutique que cosmétique, que la recherche, le secteur militaire. Bref, tout le monde, on parlait d'un marché annuel de 15 milliards de dollars en 2014, du double de 30 milliards en 2018. Vous sentez une pression, je ne sais pas, industrielle, pharmaceutique, de la recherche dans ce domaine, Jean-Charles Duclos-Vallée ?
La pression est énorme et il y a évidemment des enjeux majeurs d'investissement et on voit bien certaines proximités et lieux géographiques de centres de bioimpression à côté de puissances économiques extrêmement importantes. Donc ça c'est absolument évident. Et puis, comme on signait tout à l'heure, et vous commenciez à l'aborder, c'est évidemment des enjeux pharmaceutiques extrêmement importants en termes de tests médicamenteux. Pour les firmes pharmaceutiques aussi, de dépenser moins d'argent dans certaines phases précliniques. On a commencé à aborder ce sujet. Et donc, de fait, gagner beaucoup d'argent. Puisque tous ces tests précliniques, avant le développement d'un médicament, coûtent beaucoup d'argent.
Alors, bien sûr, Jean-Christophe Riquin.
Un petit complément d'information, puisqu'on a parlé de pression médico-économique. Il y a aussi une vraie pression de recherche qu'a bien intégré l'INSERM dans la mesure où dans son plan d'orientation stratégique, le directeur de l'INSERM, Yves Lévy, a inscrit la création d'accélérateurs de recherche technologique. Et il y a deux accélérateurs de recherche technologique qui ont été mis en place. Un qui concerne les ultrasons et l'imagerie par ultrasons et un qui concerne la bioimpression. Et cette ART sera donc hébergée par notre unité. Et l'objectif, c'est de favoriser la diffusion des technologies de bioimpression dans les laboratoires INSERM. Donc très clairement, l'INSERM a pris la mesure de l'enjeu de la bioimpression.
Alors Jean-Christophe Riquin, justement, parlons un peu des applications. On a parlé des applications en pharmacologie, en médecine. Aujourd'hui, les premiers débouchés concrets de ces progrès fulgurants de la bioimpression, ce sont lesquels selon vous ? Ceux qui vont aboutir à terme à quelque chose, vraiment à une forme d'avancée significative dans un des domaines
Très clairement, je pense que le domaine des modèles pharmacologiques sera le premier domaine qui va pénétrer le monde médico-économique. Très clairement, il y a un vrai besoin de réaliser ces modèles pharmacologiques avec des raisons éthiques qui est de diminuer l'expérimentation animale, par exemple, d'essayer d'avoir des thérapies sur mesure pour les patients. Par exemple, en cancérologie, aujourd'hui, c'est un peu le patient qui est l'objet de l'expérience, du choix, en tout cas, de la chimiothérapie, même si on connaît mieux en mieux par les analyses anatomopathologiques, quel traitement cibler. Il n'en demeure pas moins que si on a des modèles faits sur mesure pour les grands types de pathologies ou même personnalisés aux patients, on pourra tester ces médicaments avant de les infliger aux malades avec tous les effets indésirables qu'on connaît aujourd'hui.
Jean-Charles Duclos-Vallée.
Oui, tout à fait. Je voudrais juste rajouter que ces modèles pharmaco, enfin ces organes sur puce ou on-chip comme on dit en anglais, qui sont déjà bien avancés pour certains organes complexes, sont aussi la base pour appréhender à un échelon supérieur, à une taille supérieure, pour la construction de micro, de macro-organes. Parce que vous comprenez bien que si on a un petit organe, un petit foie sur puce, complètement différencié avec un système vasculaire, un système biliaire, d'écrétion biliaire, etc., et quelque chose de foie fonctionnel, eh bien, on pourra éventuellement le faire grossir, etc. Donc, il y a une connexion extrêmement étroite entre cette recherche académique, recherche pharmaceutique, etc., pour évidemment des objectifs qu'on pourrait voir comme ça un petit peu différents, mais en fait qui vont se compléter et qui se complètent déjà très vite.
Vous parliez, Jean-Christophe Riquin, à l'instant des possibilités justement que ça ouvre, notamment en matière d'oncologie, de cancérologie. J'ai lu qu'il était possible, qu'il était envisageable de bioimprimer des cellules cancéreuses, donc d'essayer de travailler des modèles sur des cellules dysfonctionnelles.
Oui, en effet, il y a aujourd'hui des modèles très très sophistiqués qui ont été publiés, notamment dans le domaine du glioblastome, avec des systèmes qui associent à la fois des cellules cancéreuses et des vaisseaux.
Donc, avec le glioblastome qui est, pour préciser pour les auditeurs,
une tumeur du cerveau qui est extrêmement grave, résistante à chimiothérapie, donc qui nécessite que donc des recherches importantes à la fois en termes de compréhension et bien sûr de thérapeutique. Oui. Donc l'idée, en fait, c'est de faire des modèles, il y a des modèles qui existent qui sont vascularisés, Donc on peut, avec des systèmes de microfluidiques, on peut perfuser des vaisseaux qui sont tapissés de cellules endothéliales et qui vont former un réseau qui se projette vers ces cellules de glioblastome. Et l'étape d'après, c'est de tester par exemple des modèles de radiothérapie et de voir le comportement des cellules. Enfin, on a tout un tas de développements actuellement sur ce champ d'activité.
Le modèle du glioblastome est un modèle fondamental parce qu'à la fois pour comprendre son processus de vascularisation, puis éventuellement avoir des cibles thérapeutiques sur les cellules vasculaires, certaines cellules endothéliale, etc., enfin, qui participent à cette vascularisation dans un contexte de tumeur. Je fais le lien avec la nécessité, effectivement, là encore, sur des approches sur puce, éventuellement des approches pharmaco, la nécessité d'avoir un tissu, quelle que soit sa taille, quel que soit son volume, sa dimension, mais bien sûr au préalable petit, de cette approche de vascularisation. Comment les cellules qui participent à la construction de vaisseaux, les cellules endothéliales, s'organisent et aussi communiquent avec les autres types de cellules. Parce que, bien sûr, les vaisseaux sont extrêmement importants pour apporter les nutriments, etc., et l'oxygène, etc. Donc il y a une communication intercellulaire qui est fondamentale, un agencement des vaisseaux qui est extrêmement important, qui est aussi très différent d'un organe à l'autre, avec par exemple des types de pores, etc., pour faire passer des substances, des molécules, etc., des niveaux de pression, des hémodynamiques très différentes, etc. Et ça, le système, des systèmes microfluidiques, des systèmes on-chip, sur puce, peuvent appréhender ça parce que vous pouvez maîtriser certains de ces aspects, en particulier des aspects hémodynamiques, maîtriser des types de pores, c'est-à-dire dans la matrice extracellulaire, on a l'agencement de cellules endothéliales, d'avoir des pores, par exemple, de taille variée, qui vont vous dire, voilà, ben, il y a ce type, à cette taille-là, ça passe mieux, l'oxygène, les pressions en oxygène sont meilleures que si c'était autrement, etc., etc.
Ce qui signifie, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est qu'on a déjà modélisé des systèmes qui permettent de vasculariser des cellules bio-imprimées, ce qui est déjà par ailleurs un pas aussi dans l'avancement d'organisations plus complexes, Jean-Christophe Friquin.
Oui, tout à fait. Jean-Charles Duclos-Vallée le rappelait. Je pense qu'un des enjeux importants, c'est de répéter, pas à l'infini, mais enfin de façon très importante, ces microstructures pour pouvoir faire des tests sur puce. Pour ce qui est la construction des organes macro-organes plus complexes, ces modèles d'organoïdes sont un premier pas, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Je crois qu'on n'a pas encore découvert l'Amérique avec la bio-impression.
Alors, on entendait tout de même dans le reportage tout à l'heure que tout ça va très vite. Hein. On entendait le chercheur de Poietis dire qu'on pensait que l'horizon était à 10 ans. Finalement, il s'est réduit à quelques années. Que tout ça va beaucoup plus vite qu'on l'espérait. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que la bioimpression va amener à moyen terme une révolution chirurgicale, hein. On parlait de bioimpression in situ, donc gérée par un bras robotique, un ordinateur, de réparation de tissus sur des patients en salle d'opération. C'est envisageable à moyen terme, Jean-Charles Duclos-Vallée,
Je crois que la révolution, elle est déjà faite et que dans certaines situations chirurgicales, orthopédiques, maxillofaciales, elle est déjà faite. Alors, Pour l'instant, je suis pas du tout chirurgien maxillofacial et orthopédique, mais les travaux, à ma connaissance, qui sont menés montrent bien que les temps opératoires sont plus courts, les temps d'irradiation radiologique, etc. Enfin, sur le plan technicité, ça peut vraiment volontiers simplifier les choses. Bon, il reste, je pense, encore beaucoup de travail dans certains domaines, hein, maxillofacial et orthopédique, pour des problématiques en particulier de coût-efficacité. Et puis, qu'en est-il à long terme? Mais la révolution est déjà entamé et ça y est, je veux dire, on est dedans. Alors maintenant, pour d'autres types d'applications médicales, chirurgicales, et là on revient à des organes complexes, j'ai envie de dire que ça démarre, mais ça va aller aussi très vite. Et par exemple, en termes de ma spécialité de l'hépatologie, on souhaite, bien sûr, et c'est le cadre de nos projets, de développer, de mener à bien des constructions de blocs le plus matures possible pour remplacer éventuellement, dans certaines situations, en particulier chirurgicales, des blocs de vaisseaux, des blocs biliaires, bière, etc.
Organovo, qui est une société américaine, hein, qui communique beaucoup, ouais, on va dire, sur la bio-impression, se targue de pouvoir bientôt bio-imprimer un foie. Alors en fait, pas vraiment un foie, mais en tout cas un patch de cellules hépatiques qui permettrait d'attendre une greffe dans les cas d'atteinte grave. C'est raisonnable.
Oui, alors, Organovo effectivement développe déjà des morceaux de tissu d'un volume et de taille conséquente, avec en particulier des approches toxicologiques extrêmement bien faites. Et c'est en particulier des travaux récents qui mènent avec certaines firmes pharmaceutiques, où ils montrent bien qu'ils ont des seuils de toxicité, comme je soulignais tout à l'heure, vraiment très satisfaisants, et qui sont beaucoup plus sensibles finalement que ce qu'on pourrait trouver en préclinique. Maintenant, ce qui est actuellement développé par Organovo et par certains autres organismes, certains centres de recherche, ce sont des tissus qui ne sont pas encore complètement pas fonctionnels sur plan hépatique, hein, j'entends. En particulier, il manque système biliaire, des systèmes de vascularisation quand même qui sont pas complètement efficaces, et puis bien sûr des viabilités de tissus quand même à court terme. Donc on est encore assez loin pour le foie, d'un tissu hépatique fonctionnel, complet.
Pour le foie, oui, mais Jean-Christophe Friquin, je me retourne vers vous pour la révolution, donc comme je disais tout à l'heure, de la révolution chirurgicale et l'impression in situ pour la réparation de tissus endommagés en salle d'opération. C'est pour après-demain.
Bon, je crois que j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je crois que l'impression 3D, donc qui n'est pas l'impression de matériel biologique, a déjà pénétré le monde chirurgical, le monde de la chirurgie maxillofaciale. On sait faire des phosphates de calcium sur mesure, on sait faire des modèles préchirurgicaux pour entraîner les chirurgiens, on sait faire des modèles préchirurgicaux qui vont servir à fabriquer des prothèses qui pourront être implantées dans des espaces qui auraient été impossibles autrefois. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la bronchotrachéomalacie qui avait fait l'objet de la réalisation d'une prothèse en polymère résorbable pour la trachée d'un enfant, donc avec une survie à 3 ans tout à fait satisfaisante. Bon, donc il y a tout un tas d'applications chirurgicales de l'impression 3D. Pour ce qui est de l'impression 3D, je pense qu'on n'est pas très loin de l'application pour des modèles très superficiels tels que les modèles de peau. Pour ce qui est des modèles plus profonds, ça sera certainement un petit peu plus complexe. Peut-être que pour la chirurgie de l'œil aussi, on aura un jour
des
applications.
Ouais, sur la rétine, il y a beaucoup d'avancées, je veux dire. La rétine est quelque chose qu'on sait à peu près bio-imprimer. Ouais. Une toute dernière question pour conclure. On l'entendait tout à l'heure, hein, dans le reportage, en un mot, il y a aussi, évidemment, inévitablement, une question éthique qui se pose à un moment donné. À quel moment on est capable de produire des tissus qui sont des tissus mieux, meilleurs, plus fonctionnels que les tissus naturels? C'est des questions qui se posent, ou c'est des questions complètement fantasmatiques, à votre avis, Jean-Christophe Friquin?
Non, la question de l'homme augmenté est une question classique en ingénierie tissulaire. Après, est-ce qu'il faut orienter ses recherches vers l'homme augmenté? J'en suis pas sûr. Maintenant, quand on cherche à faire de la réparation tissulaire, ça peut servir aussi à potentialiser les tissus. Je pense, en termes d'impression 3D, j'ai le souvenir d'une oreille bionique qui avait été réalisée et qui permettait d'entendre des sons normalement inaudibles. Bon, il y a ce genre de prouesses technologiques. Bon, c'est un peu des one-shots qui, à mon avis, n'ont pas un intérêt majeur dans un futur proche.
Jean-Charles Duclos, en un mot.
Je crois que les questions éthiques sont fondamentales. Et elles doivent être relativement précoces. J'ai un tout petit peu peur qu'elles soient pas suffisamment développées, qu'il y ait pas assez de discussions. Il y a des associations qui se montent, etc., pour monter ces niveaux de questions. Il faut réguler les choses, et avec quels objectifs, etc. Et donc c'est important que des questions éthiques soient soulevées très vite dans un contexte de régulation.
Et pour conclure, puisque c'est déjà la fin de cette émission, comme chaque mercredi, nous donnons la parole à un jeune ou une jeune scientifique qui vient nous présenter ses travaux avec une contrainte, toujours la même, et oui, c'est celle du temps, 4 minutes, pas plus. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yousra Bekti, qui est en thèse à Télécom Paris Tech. Yousra, bienvenue à la recherche Montre en main. Vous avez 4 minutes, c'est à vous, on vous écoute.
Merci, bonjour à tous. Merci d'abord pour l'invitation.
Vous êtes la bienvenue.
Merci, je suis très ravie de pouvoir présenter justement mes travaux aujourd'hui à France Culture. Par contre, mon cadre de travail, ça va être extrêmement différent de ce qui a été évoqué jusque-là, donc la bio-impression. Donc pour aller vers mon sujet de thèse, je vais commencer par vous donner un exemple pour un peu switcher. Alors, on va imaginer qu'on est dans une fête.
Hein ? On imagine.
Ouais, très bien. Donc il y a un nombre incroyable de personnes. Il y a des gens qui discutent entre eux, à côté de vous. Il y a de la musique, etc. Donc, en gros, il y a plein de bruit. Et il y a un ami dans cette salle et il vous appelle. Et là, vous, logiquement, vous essayez de localiser son endroit, où est-ce qu'il est pour aller le retrouver. Donc, là, incroyablement, c'est très facile pour vous de pouvoir ignorer tout le bruit qui se trouve autour de vous et de retrouver où est-ce qu'il se trouve. Donc là, cet exemple illustre exactement ce que j'essaye de faire dans un autre cadre, qui est non pas localiser une personne dans une salle, mais en fait localiser les activités cérébrales dans le cerveau. Donc, en gros, je m'intéresse à ce qui est à une modalité d'imagerie cérébrale qu'on appelle la magnétoencéphalographie ou l'électroencéphalographie, donc la MEG ou le EEG, qui nous permettent justement de mesurer et d'enregistrer les activités, de mesurer des phénomènes électromagnétiques qui reflètent directement cette activité cérébrale. Et ça, c'est grâce à des capteurs qui sont autour de la tête. Et l'idée, c'est l'objectif de ma thèse, c'est comment on peut repartir à partir de cette information capturée sur des capteurs, comment on peut repartir à l'intérieur du cerveau et retrouver cette source, donc l'emplacement d'une vraie région cérébrale qui a été impliquée dans cette source. Et donc là, comme dans la salle des fêtes, vous êtes capable de retrouver. Donc maintenant, la question, c'est comment je peux retrouver cette source-là. Donc plus concrètement, j'essaye en fait de modéliser ce problème mathématiquement. Et donc dans deux cas, spatialement, donc de retrouver l'emplacement. Et deuxième cas, temporellement. Et ça veut dire que comment, une fois que je trouve l'emplacement, est-ce que je peux expliquer ce que cette source faisait à la milliseconde près, donc en gros pour pouvoir expliquer ce qu'elle faisait. Donc ce problème est assez connu dans différents domaines, qui est connu comme le problème inverse qui est mal posé. Il est extrêmement complexe parce qu'en fait on n'a pas assez d'informations sur les capteurs pour pouvoir retrouver les sources. Et donc là, après, il y a différentes façons de faire. L'idée, comme dans la salle de fête, vous pouvez balayer toute la salle et essayer de retrouver l'emplacement. Mais ici, le cerveau est défini par à peu près 20 000 différentes positions, donc c'est extrêmement dur. Et donc moi, je m'intéresse à des solutions qu'on appelle parcimonieuses, qui veut dire qu'on va essayer de réduire le problème de 20 000 possibles positions à seulement, on va dire, peut-être 5. Mmh. Et voilà. Donc, après, il y a un autre le problème auquel on fait face. Donc, c'est un grand défi, c'est de validation. Donc, disons qu'une fois on a un bon algorithme qui arrive à localiser ces différentes sources, comment on peut valider? Parce que contrairement à d'autres domaines de recherche, il n'y a aucune notion de réalité terrain qui nous dit que voilà la réalité est comparée par rapport à ça. Et donc la question auquel je m'intéresse maintenant, c'est de dire comment on peut dire que l'algorithme a trouvé des bonnes sources qui sont significatives en termes de neurosciences, et comment on peut juger que ça explique l'activité cérébrale suffisamment bien.
Eh bien, merci beaucoup Yousra Bekti pour cet exposé brillant et extrêmement clair. Merci d'être venu à la recherche Montre en Main. Merci beaucoup également à nos deux invités, Jean-Charles Duclos-Vallée et Jean-Christophe Friquin, qui étaient en direct de Bordeaux. Et donc, merci beaucoup également à nos collègues de France Bleu Gironde qui ont rendu ce duplex possible. Et merci, comme chaque jour, à toute l'équipe qui rend possible cette méthode scientifique quotidienne. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen et Léo Quentin. Merci beaucoup également à notre réalisatrice Elisabeth Miro. À la technique aujourd'hui, à Myriam Guillot, au droit d'auteur, c'était Ben Karsmarek. Demain, mystère, message codé, chiffrement, nous remonterons aux origines de la cryptographie à travers le cas du manuscrit de Voynich qui reste aujourd'hui encore indéchiffré.